International, Annie Gasnier.
Russia Dobridien, bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI à cet horaire inhabituel ou habituel en ces temps de Coupe du Monde, bien sûr. Et cette surprise venue d'Asie, les samouraïs bleus viennent de battre les cafeteros 2-1 pour le Japon face à une Colombie réduite à 10 dès la 6e minute de match. Une surprise donc que ces Japonais qui avaient changé de sélectionneur quelques semaines avant leur entrée en compétition et qui y jouaient pourtant face à Falcao, James et leurs camarades. Décidément, cette Coupe du Monde est très éprouvante pour les équipes latinos, celles venues d'Amérique du Sud. Les écoliers dans les rues de Dakar, prêts à encourager les lions à plusieurs milliers de kilomètres de Moscou. Car aujourd'hui, les lions de la Teranga entrent enfin sur la pelouse. Ils joueront dans moins d'une heure maintenant, leur match contre la Pologne. Pologne-Sénégal, est-ce un match équilibré que cette dernière rencontre du premier tour de la phase de poule de la Coupe du Monde? Un buteur de renom dans chaque camp, le lion Sadio Mané face au meilleur buteur de la Bundesliga, Robert Lewandowski. Nous en parlerons et nous parlerons aussi de ces lions du Sénégal qui ont peut-être pour mission de sauver l'honneur des équipes africaines. Croisons les doigts pour eux. Le retour de Mohamed Salah parmi les pharaons, l'espoir de toute une nation, celle d'Égypte qui disputera tout à l'heure son deuxième match face à la Russie. Sera-t-il là ou pas le buteur de Liverpool? Alors évidemment, l'Égypte jouera contre l'équipe hôte de la Coupe du Monde et ce pourrait être une épreuve au-delà de la pelouse. Match qui se dispute à Saint-Pétersbourg. Pour évoquer les sujets du jour, dans ce studio, Freddy Koula, le plus jeune d'entre nous, qui a un côté sénégalais, il a le maillot. Bonjour Freddy.
Bonjour Annie, bonjour chers auditeurs, bonjour mes frères sénégalais, parce que moi aussi j'ai un côté sénégalais, mon père est sénégalais, mon géniteur surtout, et donc ça me fait un pincement de savoir que le Sénégal va débuter la Coupe du Monde.
Bon ben voilà, croisez les doigts, je crois que c'est important. Face à vous, Philippe Doucet de Canal+. Bonjour Philippe.
Bonjour Madame Annie.
Bonjour Monsieur Philippe. Et bien à côté, il y a Monsieur Franck, Franck Simon. Bonjour Franck.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Notre ami de France Football. On retrouvera tout à l'heure à Saint-Pétersbourg Olivier Pron et Christophe Jousset qui assureront ensuite la retransmission de ce match important. Radio Foot, c'est parti.
Direction la Russie pour vivre la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018.
Les Japonais, vous l'entendez, ils ont pris le meilleur sur les Colombiens qui disputaient tout à l'heure le premier match de cette journée de Coupe du Monde. Un match donc qui opposait samouraïs bleus, comme on les surnomme, et cafeteros. Ce sont les Japonais donc qui ont pris le meilleur d'entrée. Il y a eu ce pénalty à la 6e minute et surtout une exclusion d'un joueur de la Colombie. Et puis ensuite, les Japonais ont été sans cesse très dangereux. C'est eux qui l'emportent finalement sur le score de 2-1, alors que les Colombiens ont beaucoup poussé en fin de match pour essayer d'égaliser, essayer de marquer un but et d'avoir au moins le match nul. Est-ce que c'est un résultat surprenant? Je pense que pour les parieurs, c'est peut-être là où on fait la différence, Philippe Doucet.
Oui, bien sûr, c'est une surprise. On est en face au groupe où, dès le début, on a considéré que c'était le plus serré. Ce qui n'arrive pas toujours d'ailleurs, c'est un scénario qu'on annonce toujours au début, puis finalement au bout de deux journées il peut y avoir deux qualifiés, mais en tout cas ça semblait être le groupe le plus serré, et s'il y avait un favori c'était plutôt la Colombie. Je crois qu'on s'est un peu trop arrêté sur le match qu'ils ont disputé contre l'équipe de France, qui était intéressant, où ils avaient gagné 3-2 au Stade de France, mais par ailleurs ils n'ont pas gagné un seul autre match de préparation. Par ailleurs, James est un peu blessé, il n'est rentré qu'à la 60e minute, et puis par ailleurs il y a des faits de jeu. Quand on prend un pénalty et un rouge à la 3e minute, le match change complètement évidemment d'âme, et les Japonais ont su en profiter.
Justement, les Japonais, Franck, ils étaient très entreprenants, on peut dire, sur cette pelouse, et on les a vus vraiment, comme on dit, bouger la Colombie.
Oui, ça c'était pas... En ce qui me concerne, c'est une surprise. Je m'attendais pas effectivement à ce type de scénario avec des Samurai Blue aussi entreprenants, en tout cas d'entrée, comme vous le précisiez. Et c'est vrai que comment il y a ce fait de jeu qui pénalise la Colombie, ils ont su bien en profiter, ils transforment ce penalty. Puis après, ben, il s'agit de gérer, hein, sachant que ça va obliger la Colombie à sortir un petit peu et à se fatiguer. Ils avaient cette capacité, justement, les Japonais à encaisser ce type de vagues, bon, qui ont été dangereuses, mais finalement, qui ont échoué sur un grand Ospina, parce que ça fait la différence sur certains matchs, c'est les grands gardiens. Là, il est peut-être petit par la taille, mais il était très bon aujourd'hui.
Oui, Ospina, le gardien, évidemment, du côté
Colombien. Pardon, je me suis trompé, je vous dis une bêtise.
Ah bon?
Kawashima.
Oui, Kawashima.
Voilà. Pourquoi je parlais d'Ospina?
Celui du FC Metz.
Celui du FC Metz. Relégué, mais très bon avec l'équipe.
Dans ces samouraïs, il y en a deux qui évoluent.
Pas terrible sur le but, quand même.
En France.
Pas terrible, mais peut-être faudrait que vous reveniez, Philippe, sur ce qu'ont fait les garçons du mur. On comprend pas très bien qui saute.
Oui. Mais enfin bon, je pense qu'il avait, il y avait matière.
Il avait de quoi effectivement avoir la main.
Il y avait le temps de marcher un petit peu plus, deux pas de plus aurait aidé.
Voilà, un chassé.
Je parle de
gardien.
Parce que
enlever le ballon.
Je
mais
sais que Franck est
pourquoi
un bon
est-ce
gardien.
Que le mur saute? On comprend pas sur ce coup franc. Déjà le coup franc, on pourrait
le dire. Il saute tout le temps. Les murs sautent toujours.
Là, ils ouvrent la porte en fait.
Oui, certes.
Le coup franc, il aurait pas dû.
Ouais, c'était un confrant donc de la Colombie et c'est à ce moment-là qu'elle égalise avant de prendre un but. Freddy, si les Japonais étonnent aussi, c'est parce que on a su avant cette compétition hein, qu'il y avait eu un gros problème dans le milieu de l'entourage, on va dire, de cette équipe, c'est-à-dire le coach qui est viré à peine deux mois du coup d'envoi. C'était Wahid Halilhodžić qui faisait un travail depuis plus de deux ans qui part. Est-ce que finalement, eh bien ça change pas beaucoup l'ambiance dans une équipe et finalement son travail.
Mais elle avait tout pour ne pas gagner ce premier match, notamment ce Japon. Ouais, tout le monde voyait comme le punching ball certainement de la
du
Colombie.
Groupe,
La Colombie qui avait battu le Japon déjà en 2014. Si on reste sur les gens restent sur une Colombie qui a été presque excellente en 2014 avec James Rodriguez qui était flamboyant, avec des joueurs qui se connaissent depuis quelques années déjà. Et puis un Japon qui malheureusement a perdu son entraîneur et on se disait justement en perdant l'entraîneur, ça marche presque pas. C'est vrai que pour l'Espagne ça marchait plutôt pas mal, plus qu'il y a une sorte de cohésion. Et puis là, finalement, c'est une succession d'erreurs qui, comme depuis le début de cette compétition, il y a pas mal d'erreurs, notamment individuelles. Et puis avec Sanchez, les deux Sanchez d'ailleurs, le défenseur central lui-même, il s'est planté littéralement. D'ailleurs, je pense que sur Twitter, on a vu quelques Colombiens qui se sont demandé pourquoi l'entraîneur n'a pas titularisé le défenseur central du Barça, Yerry Mina, plutôt que le jeune Sanchez qui, à mon avis, n'a pas été excellent. Mais le Japon, je pense, a joué sur cet esprit de combativité qui la caractérise.
Aussi la pression les cadres.
Ouais, ils avaient la
moment,
pression parce que c'est eux qui ont fait
qui ont,
virer,
voilà.
C'est eux qui ont fait virer Vahid.
Il fallait assumer.
Onda est rentré, d'ailleurs il y a une stat intéressante, Onda il est impliqué en Coupe du Monde sur je pense les 6 derniers buts du Japon, ce qui montre quand même qu'il y a un côté expérience qui a joué dans ce match.
C'était un peu un putsch et c'était au cadre de montrer qu'on peut se passer parfois du travail disons dans la continuité même pour une Coupe du Monde.
Bah, ils n'ont rien fait pour que Vahid Halilhodžić reste en poste, au contraire. Après des moments dans la compétition, bah, c'était à eux de démontrer qu'ils avaient entre guillemets qu'ils avaient raison et il fallait assumer, ils l'ont fait, ils ont été au bout. Le fait de jeu les met quand même dans une très bonne posture, c'est clair.
Alors parlons de la Colombie et des Cafeteros parce que finalement c'est peut-être une déception Philippe, même si ils sont apparemment moins forts qu'en 2014, c'était avec le même entraîneur hein, le sélectionneur argentin Jorge Pekerman et on a Falcao qui fait son entrée finalement en Coupe du Monde puisque la dernière fois rappelons-le, il avait été blessé durant un match de Coupe de France hein, bien avant la compétition. Mais ça l'avait empêché de participer à la dernière Coupe du Monde.
Oui, il s'était blessé avec Monaco, effectivement, en janvier.
Il avait handicapé des années.
Un suspense jusqu'au bout, mais il avait fini par renoncer. Cette fois-ci, à la fin de la saison avec Monaco, il s'est épargné.
Physiquement ?
Oui, il semblait un peu blessé ou pas blessé. En tout cas, il n'a pas pris le risque. Il a essayé de se préserver pour la Coupe du Monde. Bon, pour l'instant, ça ne marche pas parce qu'il a eu... Il a fait un match honnête mais sans plus, il a pas pesé pour sa première rencontre de il a une carrière bizarre ce Falcao parce que c'est quand même le meilleur joueur que je connaisse, qui n'ait pas joué la Ligue des Champions avant d'avoir, je ne sais plus combien, mais genre 29 ans,
avant 29
et
ans.
Pas joué la Coupe du Monde avant d'avoir 32 ans. Mmh. C'est incroyable, c'est circonstances, ouais. Circonstances de carrière.
C'est peut-être son agent
des
aussi,
choix,
hein.
Oui,
on en
des
a
choix.
Beaucoup parlé.
Non, mais des choix d'argent, clairement, oui. Il a fait des choix d'argent, ouais. dans sa carrière.
Mais c'est l'agent qui le faisait souvent pour lui.
Qui aboutissent à des choix, oui, et puis il y a eu des histoires de propriété, vous savez, parfois les Sud-Américains sont propriétés d'entreprises ou choses comme ça,
enfin, de sociétés.
C'est assez complexe, et puis bon, lui a visiblement joué le jeu, et lui-même, il trouvait son compte, visiblement. Mais
son
du coup,
compte,
sa carrière, du coup, sa carrière est
son
un peu étonnante, parce qu'il se retrouve à jouer des grandes épreuves avec la trentaine.
Ouais.
Et quand il a été au.
C'est presque tard.
Quand il a été le meilleur, à son meilleur, à Porto, ou à l'Atlético Madrid.
Ou à Monaco, la saison dernière.
Il a pas joué les grandes compétitions.
Mmh. Franck.
Bah, t'as son
c'est Cafeteros.
Ouais, c'est une déception. Clairement, oui. Parce qu'on attend.
En plus, ils se sont qualifiés, finalement. Bon, alors, après le classement le dernier jour, l'Argentine tout d'un coup bouscule tout. Mais pendant un moment, ils étaient très bien dans les qualifications sud-américaines.
Ouais, absolument, mais après.
Ils ont mal fini, hein.
Oui,
ils
oui.
Ont mal fini,
peut-être parce qu'ils
avaient.
Mais peut-être parce qu'ils étaient partis trop vite. Trop. On est confiant dans ces cas-là, hein. C'est la fable.
C'est le piège.
Non, mais la qualification était remise en cause alors qu'à un moment ils survolaient. Enfin, ils étaient avec les.
Ils font quatrième. Ils font quatrième de la.
Ils étaient avec l'Uruguay tranquille derrière le Brésil tranquille. Puis à la fin, ils ont cravaché. Il a fallu faire un nul la dernière journée, sinon ils passaient pas.
Hein. Exactement.
Tout simplement l'impression après ce match. Je les ai vus jouer une seule fois ces derniers mois. C'est le match contre l'Égypte en match de préparation. J'avais trouvé une équipe plutôt en place, une équipe qui a buté sur le mur égyptien, mais dont on sentait qu'elle était supérieure techniquement à ce type d'adversaire. Pour moi, l'Égypte est plus solide que le Japon. Et ben voilà, il en a rien été. Il y a une déception de toute façon. Et puis ils sont obligés de faire le boulot avec un prochain match contre la Pologne dimanche.
Mm-hmm. Et la victoire du Japon est une victoire historique. Statistiquement, c'est la première victoire d'une équipe asiatique sur une équipe sud-américaine. Ils ont joué, je pense, 17 matchs et ils ont subi les Asiatiques 14 défaites. Ça prouve quand même qu'il y a un côté historique là-dedans, indépendamment du fait que le Japon lui-même n'a jamais battu une équipe asiatique.
Le démarrage des équipes sud-américaines est catastrophique. On parle que de l'Afrique, parce qu'évidemment, ça nous regarde de plus près.
Ouais, l'Uruguay qui a gagné quand même.
Mais l'Uruguay qui a gagné à la dernière minute.
Il est moins catastrophique que l'Afrique, mais
pour l'Amérique du Sud, qui était le meilleur continent sur les phases de groupe des deux dernières Coupes du Monde, parce qu'ils avaient plus.
Pratiquement tout le monde passait en huitième de finale.
Pratiquement tout le monde était en huitième. Alors après, bon, il y avait un cap, et puis effectivement, c'est un pays européen à l'arrivée qui a gagné ces deux Coupes du Monde. Mais enfin, on avait l'impression que l'Amérique du Sud prenait un peu le dessus. Là, cette Coupe du Monde européenne est très, très européenne. Hein. Elle est ultra européenne.
Il faut peut-être rappeler les résultats. Le Pérou qui a perdu.
Exactement.
La Colombie qui a perdu. L'Argentine et le Brésil qui ont fait nul.
Match nul.
Ouais.
Et
l'Uruguay
le seul à avoir gagné pour l'instant.
Péniblement.
Effectivement. La défaite de la Colombie s'explique-t-elle seulement parce qu'ils étaient réduits à 10, Franck?
Je pense, non, on peut pas l'expliquer que par cet élément-là, mais je pense que c'est un élément prépondérant.
Perturbateur dès la sixième minute. Hein.
Ouais, voilà, avec un match qui s'est joué tôt dans l'après-midi, avec une équipe japonaise qui était venue avec un plan, parce qu'elle n'était pas venue pour défendre, elle avait envie de piéger cette équipe colombienne. Et puis bon, moi j'ai trouvé des limites aussi aux joueurs dont on connaît l'aisance technique. Voilà, j'y ai vu des limites. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de potentiel. Enfin,
oui,
c'est
parce
pas le vrai mot.
On parle de Falcao. James est quand même rentré à la 60e minute. Après on a Cuadrado. On a des joueurs qui
ils ont pas emballé.
Sortis très vite.
Oui, ils ont pas su emballer.
Voilà,
match.
C'est ça.
Pour des raisons tactiques, certes, pour renforcer le milieu, mais ça veut dire que ça marchait pas trop parce qu'il a maintenu au moins pendant 20-25 minutes l'équipe dans la même organisation, mais évidemment avec un milieu défensif en moins.
Pekerman, hein.
Et c'est Cuadrado qui en a été victime. Quintero confirme toujours pas. Enfin, tout le talent qu'on lui a prêté, il le confirme toujours pas. Ouais, c'est. Il n'y a pas tant de réserves que ça.
Ça a ronronné quand même, Philippe.
Ça
a ronronné cette équipe colombienne, honnêtement, par rapport à ce qu'on est capable d'accomplir sur un terrain. C'est pas génial, quoi.
Parce qu'ils ont été bien contrés par le Japon aussi, je pense. Le Japon qui avait l'ambition de jouer, je pense, en contre, finalement, s'est retrouvé, bien sûr, en supériorité, mais avec une agressivité beaucoup plus grande, dans le milieu de terrain, notamment. Ils étaient en supériorité, c'est vrai, mais à chaque fois.
Beaucoup de rapidité.
Et même les duels en défense, ils étaient secoués, les Colombiens.
Mais ça on peut le dire maintenant. on a la chance, voilà, on est après les 90 minutes de match.
Bien sûr.
Donc c'est facile de le dire. Mais honnêtement, vous m'auriez posé la question avant la rencontre, jamais j'aurais imaginé que ce Japon allait mordre comme ça.
Bah déjà, on savait même pas quel Japon devait jouer.
Ouais, mais pourtant, on les voit quand même souvent vaillants en Coupe du Monde, mais effectivement, ils échouent toujours sur le mur des huitièmes de finale. En tout cas, on y viendra évidemment aux deux autres équipes qui sont dans ce même groupe, qui est le groupe E, mais il y a aussi le Sénégal et la Pologne, et donc bien ça rebat un peu les cartes, et on verra ce soir après le deuxième match du groupe qu'est-ce qui pourra se passer. En tout cas, pour l'instant, c'est le Japon qui est devant tout le monde. Le deuxième tour commence dès ce soir. Ce sera le match de 20h, heure de Paris. C'est le retour des équipes du groupe A et la Russie qui, vous vous en souvenez, a assuré le spectacle lors du premier match de la compétition. C'est inédit, 5-0 en ouverture d'une Coupe du Monde. Alors évidemment, ce soir, l'adversaire sera un peu moins... il collaborera, disons, un peu moins, sans doute, au résultat moins faible. Puisque quand même, l'Arabie Saoudite, on l'avait pas vu très, très vaillante dans ce match.
Je crois qu'on a Juan Antonio Pizzi en ligne, d'ailleurs, pour vous.
Ah oui, c'est vrai. Allô, monsieur, bonjour, excusez-nous d'être un peu cru dans nos analyses. La Russie jouera contre l'Égypte. Et la grande question, évidemment, autour de cette confrontation après l'épique Uruguay-Égypte, eh bien, la question se repose. Mohamed Salah sera-t-il dans les rangs des pharaons? Apparemment, selon l'entraîneur, il nous dit un peu comme la dernière fois, hein, Hector Cooper, l'Argentin, tout prête à croire que Mohamed Salah sera là.
Salah est l'un des meilleurs joueurs du moment. Il fait partie des 10 meilleurs au monde. Cela ne fait aucun doute pour moi. Et je suis fier de travailler avec lui. Il fait partie de ces joueurs qui, en plus de leur talent, sont humbles, accessibles. Ils pensent à leur équipe. Est-il important pour nous? Bien sûr, qui pourrait le nier? Salah a une capacité incroyable dans les 20-25 derniers mètres, qui fait qu'on peut compter sur lui. Je ne dis pas que c'est une garantie, car personne n'a de garantie. Mais c'est une arme très importante en attaque. Et je suis obligé de le dire, quand on ne l'a pas, ça se sent. Alors j'espère vraiment qu'il sera avec nous pour ce match. Je suis très optimiste là-dessus.
Alors il est très optimiste. Est-ce qu'on peut être optimiste, Philippe Doucet, étant donné que Mohamed Salah donc n'a pas pris part au premier match? Était-ce tactique ou pas? On s'est aussi posé la question, puisque il était peut-être juste et cette équipe des Pharaons a préféré miser sur les deux autres matchs. On peut le lire comme ça?
Moi, je pense que si on se prive de Salah, c'est qu'il n'est pas prêt. Parce que sinon, alors oui, peut-être que si le scénario avait fait que l'Uruguay avait marqué 10 minutes avant, peut-être qu'il aurait lâché Salah. Mais je trouve dans les attitudes, souvent on voyait des images
de plan de coupe
sur Salah, dans les attitudes, ça se sentait que Salah ne rentrerait pas. Il ne s'est jamais échauffé déjà, il était avec un plein sourire, il discutait, etc. C'était l'attitude d'un joueur qui savait qu'il ne jouerait pas. Et la question, c'est surtout aujourd'hui. Est-ce qu'il est en état de jouer? L'urgence, parce que l'Égypte est carrément obligée de gagner. Il faut regarder les choses très clairement.
Mm-hmm. Elle a perdu le premier match, il n'y a que trois matchs.
Sans victoire, l'espoir serait quasi nul de se qualifier. Donc je vois, il faudrait vraiment qu'il ne soit pas prêt du tout. Et très loin d'être prêt pour qu'aujourd'hui l'Égypte ne prenne pas le risque de l'aligner.
Franck, on avait prédit en fait, au moment où Salah sort du terrain dans les heures qui suivent, on va dire même peut-être 2-3 jours après la finale de la Ligue des Champions, on imagine que Salah ne fera pas le premier match déjà contre l'Uruguay parce qu'en temps de récupération, c'était difficile. Justement maintenant, contre la Russie, c'est peut-être le moment de le faire rentrer, de faire rentrer des points aussi pour l'équipe.
C'est le seul choix possible pour Hector Cooper. S'il veut essayer d'emmener cette équipe au second tour, ça passe par la présence de Mohamed Salah dans le 11 de départ. Après, il a bien joué sa carte, il a bluffé. C'est une des rares fois où il aura bluffé d'ailleurs, hein, parce que généralement il est super prévisible. Ouais. Mais là, il a voulu bluffer. Ça a pas forcément. Ah, il a manqué quelques secondes pour que ça fonctionne. Mais...
Oui, parce que rappelons-le, hein, le but de l'Uruguay survient à la 90e minute, donc c'est très tard.
Il avait bluffé tout le monde, même Franck Simon, parce que je me souviens, la dernière émission, Franck était hyper certain.
Mais forcément,
Pour défendre
Franck, même nos envoyés spéciaux en Russie avaient écouté Hector Cooper et étaient allés à l'entraînement et croyait qu'il rentrerait sur la pelouse.
Moi, je pensais qu'il rentrerait en plus.
Hein, oui, jusqu'au troisième changement qui doit intervenir peut-être à la 80e, assez tard, 80 ou 85. On scrute.
Il a joué le jeu. Il a joué le jeu, Salah.
Il n'y a qu'à ce moment-là que les Uruguayens ont su définitivement qu'il n'y aurait pas de Salah en face.
Bon, oui. Alors, avec ou sans Salah, en tout cas, aujourd'hui, cette Égypte est au pied du mur, au pied de la pyramide.
On vote Salah,
voilà, on vote Salah de nous. El Hadary, on avait aussi pensé ou imaginé ou prédit qu'il serait dans les cages. Et vous l'aviez très bien dit, Franck, que d'autres étaient plus en forme que lui. Et d'ailleurs, il n'a pas disputé ce match, El Hadary. Pas encore.
Non, pas encore.
Le
mais
plus vieux joueur potentiel de la.
Je trouve qu'il a fait une belle déclaration juste après le match en disant voilà, Chenaoui a fait un gros match. Je préfère que mon équipe passe au second tour et ne pas jouer.
Et ne pas rentrer dans les records.
Il est présent, il se maintient en forme, il fait en sorte que Cooper se pose la question. Mais aujourd'hui, Chenaoui, sur ce qu'il a fait, il est indiscutable.
Alors Mohamed Salah, l'Égypte a perdu le premier match, alors que la Russie a fait une très belle prestation inattendue. On s'en souvient, ce 5-0. Est-ce que c'est un match doublement difficile, Freddy, pour l'Égypte, c'est-à-dire non seulement jouer et devoir gagner, mais en plus jouer contre le pays hôte et avec un stade, alors même si c'est pas complètement contre, mais en tout cas un stade où évidemment il y aura plus de Russes pour encourager l'équipe.
L'avantage est clairement russe parce qu'en plus les Égyptiens savent de toute façon que s'ils perdent ce match-là, ils sont éliminés, ça rentre à la maison. En plus, ça joue contre une équipe qui finalement c'est transcendé, comme on dit souvent, une équipe peut être minable de temps en temps, comme elle a été cette équipe russe en match amical, on pensait qu'il n'y avait rien du tout, et se transcender pendant la compétition, c'est extraordinaire, avec Golovin qui a été extraordinaire. Je trouve que ce n'est pas le même abord face à une Égypte qui a Salah ou qui n'a pas Salah. J'ai vu en conférence de presse le sélectionneur russe qui disait ils ont préparé un plan anti-Salah, et les joueurs disaient même, une blague qui passait en disant, ils vont se servir de ce que Ramos a fait. C'est pour dire, en gros,
c'est peut-être pas une blague.
C'est une clé de judo, c'est ça?
Ouais, ça veut dire qu'il prépare le match en fonction de ce qu'il y a en face, et ce qu'il y a en face, généralement, c'est Salah. Et s'il n'y a pas Salah, je pense que psychologiquement, ils ont peut-être un avantage. Et le fait de jouer à domicile, avec une dynamique qui, ma foi, a surpris tout le monde, il y aura quelque chose dans ce match pour la Russie. Je ne suis pas très optimiste pour les Égyptiens.
Franck.
La dernière fois que l'Égypte a joué avec son équipe, son 11 type, c'était le match de la qualification en octobre contre le Congo. Donc ils n'ont pas joué tous ensemble, tous ceux qu'on connaît, parce que a priori il y a un seul changement entre le 11 aligné contre l'Uruguay, c'est Amr Warda dans le couloir droit qui doit laisser sa place à Mo Salah. Mais ils n'ont pas joué dans cette configuration avec Mo Salah depuis octobre. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, techniquement c'est une équipe dans son expression offensive, et Dieu sait qu'elle est limitée, où il y a vraiment un lien très très fort entre Mo Salah dans le couloir droit, Abdallah El Saïd avec lequel il s'entend à merveille, qui est un petit peu le milieu offensif.
Le Firmino
voilà celui qui est plus axial. Mm-hmm. Et puis Trezeguet, parce qu'il y aura de la permutation avec Trezeguet qui lui est de l'autre côté. Donc entre ces trois-là, il y a vraiment un lien très fort qu'on a vu d'ailleurs en Coupe d'Afrique des Nations il y a un an et demi. C'est pour ça que comment Cooper sait très bien qu'il peut compter sur eux à un moment donné. Ils auront peut-être 3 ou 4 phases pour marquer. Sans Mo Salah, je pense que c'est compliqué, parce que Warda n'a pas montré grand-chose. Morsen, qui a joué en pointe, n'a pas montré grand-chose non plus.
Il n'y a que Trezeguet mais sur des actions individuelles,
voilà.
Qui ne fait pas si peur que ça. L'Égypte ne sait pas créer la moindre occasion, il faut être honnête.
Ce qui est avantageux avec cette équipe de l'Égypte, c'est que comparé aux autres équipes africaines, même si je pense qu'il y en a qui ont été dithyrambiques avec les premières 25 minutes du Maroc, c'est que l'Égypte est restée dans son schéma classique.
Mais il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas de plan B en Égypte, c'est ça la difficulté.
Ils sont restés à peu près dans leur style. Qui est plutôt classique, s'il leur manque justement cette étincelle et cette personne irremplaçable, malheureusement.
C'est vrai, mais je pense que malgré tout, c'est le souci de Cooper après tout, mm-hmm. Mais il a jamais pensé à un plan B.
Ouais.
Depuis 3 ans qu'il est là, 3 ans et demi, c'est toujours la même chose. Il est tellement prévisible.
Ouais, mais ça marche.
Jusqu'en finale de la CAN.
Voilà, exactement, ils ont perdu en finale de la CAN.
Après, c'est limité.
Et ça, c'était pas prévisible.
Franck a raison, c'est que c'est limité. L'évolution de l'équipe, elle est pas spectaculaire, elle est toujours sur le même.
Je sais que ça me fait mal de le dire, Philippe.
Mais oui. J'imagine bien.
Philippe, une dernière question au sujet de ce match. Que peut faire la Russie? Parce que finalement, la Russie, on l'a vu l'autre jour, alors on s'attendait à une Russie faible au vu de ces matchs de préparation, au vu du niveau aussi des joueurs. Là, ils se sont transcendés, c'était le match d'ouverture et ils ont voulu être à la hauteur. Mais peuvent-ils être à la hauteur de l'Égypte?
Oh ben de l'Égypte, oui. De l'événement qui consisterait à aller très très loin dans le parcours, c'est difficile. Mais de l'Égypte, oui. L'Égypte est un niveau atteignable. Excusez-moi quand même. Pour une équipe européenne, l'Égypte est un niveau atteignable. La grande force de la Russie dans ce match, c'est qu'elle n'est pas obligée de gagner. Elle peut se permettre de faire un nul. Et c'est une équipe qui, on l'a vu, même au match d'ouverture contre l'Arabie Saoudite, ils défendent hyper bas parce qu'ils ont des vieillards en défense. Je suis un peu méchant. Enfin, qui sont vieux et qui vont pas vite du tout. Donc s'ils sont obligés d'aller attaquer, c'est une équipe franchement hyper prenable. Si par contre, ils peuvent se reposer un petit peu sur une base arrière et puis déclencher des contres où des Golovin ou autres sont très habiles, là, ça devient une équipe qui peut être dangereuse. Et ce qui me fait peur, c'est ça. C'est que en jouant l'Égypte, le scénario fait qu'un nul leur va très très bien. Ils pourront calculer le dernier match. Il faudrait que l'Égypte gagne par un score astronomique contre l'Arabie Saoudite, pendant qu'ils perdent contre l'Uruguay, qui sera peut-être déjà qualifié. Le scénario, il est écrit pour les Russes. C'est ça qui me fait peur.
Ouais, et parce que cette équipe aussi joue à domicile. Allez, on va vous soumettre au petit jeu signé David Finzel et Guillaume Ploquin.
Votre pronostic ?
Et l'autre ?
Mais je ne suis pas un devin ! Je suis un malin ! C'est tout !
Nous sommes d'accord.
Un pronostic, Freddy Koula ?
Je ne suis pas très bon, mais c'est 3-1 pour la Russie.
Oula, fort. Philippe ?
Le nul redouté. Le nul redouté, ouais. Le score que vous voulez, mais entre 0-0 et 1 partout, mon cœur balance.
Bon, allez, on vous laissera le bénéfice de ce doute-là. Franck, allez, lancez-vous.
Bah, 2-1 pour l'Égypte, évidemment. 2-1 pour l'Égypte.
Mais oui, il est optimiste.
Mais absolument, et je veux.
On le veut tous.
C'est ouais. Bien, allez, on veut voir surtout Mohamed Salah, enfin.
Passeur ou buteur, qu'importe. La victoire pour les pharaons, Masre.
Exactement.
Et l'Égypte.
À voir. Allez, direction maintenant, eh bien, nous allons vers Saint-Pétersbourg, parce qu'il y a un match que tout le monde attend.
Radio Foot International. Annie Gasnier.
Du rythme et de la voix pour les supporters du Sénégal qui donnaient donc eh bien tous ces cris pour encourager leur lion. C'était il y a quelques heures à peine autour du stade où va se dérouler donc cette rencontre entre la Pologne et le Sénégal à Moscou. Et évidemment dans quelques minutes eh bien cette rencontre va j'imagine électriser tout un peuple de Saint-Louis à Ziguinchor en passant évidemment par Dakar. Les Sénégalais disputent en effet leur premier match de cette Coupe du Monde, mais surtout ils disputent la deuxième phase finale d'une Coupe du Monde, 16 ans d'attente pour une nation aussi passionnée de ballon rond. Alors vous avez entendu tout à l'heure les écoliers de Dakar qui étaient déjà dans les rues, drapeau en main, prêts à aller supporter leur équipe. Il y a quelques instants, sur le compte Twitter de la présidence du Sénégal, on a entendu ce message de soutien signé du chef de l'État, Macky Sall.
Mes chers lions, le grand jour arrive. La nation rassemblée vous accompagne et vous soutient. Vous êtes notre fierté, notre espoir et notre rêve. Vos aînés nous ont offert des moments de joie. Suivez leur exemple et offrez-nous le bonheur. Ne formez qu'un, épousez nos valeurs séculaires de solidarité et de dignité. Tous ensemble, nous sommes invincibles.
Voilà un message, si c'est pas pour mettre la pression, ce genre de message, offrez-nous le bonheur, soyez invincibles, c'est pas simple. Alors on va du côté de Moscou, la capitale de la Russie, dans le stade du Spartak où va se dérouler ce match. Olivier Pron et Christophe Jousset sont déjà là. Bonjour les amis.
Bonjour Annie, bonjour à tous, bienvenue au stade du Spartak que vous entendez déjà bruisser derrière nous. Salut Christophe.
Bonjour Olivier et bonjour à tous.
Alors décrivez-nous un peu ce stade, Olivier. On vous a vu, nous, sur les réseaux sociaux, présenter l'affiche du jour devant cette couronne, on va dire, hein, ou peut-être comme un nid d'oiseau rouge et blanc, évidemment, aux couleurs du fameux historique club du Spartak Moscou.
Il est magnifique, mais j'ai l'impression que jour après jour, Christophe, on dit que les stades russes de cette Coupe du Monde sont magnifiques. Je ne sais pas si on pourra faire un concours. Celui où vous étiez à Saint-Pétersbourg, je l'ai vu en mars, est vraiment somptueux. Celui-là, il est beaucoup plus petit, il est beaucoup plus cosy. D'ailleurs, notre position commentateur est juste formidable pour commenter un match. On a l'impression d'être dans un stade à l'anglaise.
En soirée à Stamford Bridge presque, tellement on est près de la pelouse. Pas aussi près que pour ce stade de Chelsea, mais quand même, on va être vraiment super bien placé. On se sent privilégié pour assister au début du Sénégal face à la Pologne dans un stade qui, c'est vrai, est très joli et qui baigne dans une belle lumière alors qu'il est 17h40 ici à Moscou. On voit les écailles blanches et rouges qui habillent, disons, l'extérieur de ce stade de manière très jolie, qui sont baignées par la lumière de ce soleil. Vraiment, c'est très beau. Et l'intérieur aussi est rouge puisque tous les sièges sont rouges.
Oui, et puis les supporters polonais sont bien plus nombreux
en plus
que le Sénégalais. Et la Pologne joue en quoi? En rouge et blanc. Les supporters sont en rouge et blanc. Bref, il y a du rouge et blanc partout. Il y a un petit peu de vert quand même sur la pelouse. Les Sénégalais sont à l'échauffement en ce moment. On annonce 700 supporters sénégalais. Ça va faire tout petit par rapport aux milliers, voire aux dizaines de milliers de Polonais qu'on a pu croiser un petit peu partout aux abords du stade et dans le stade maintenant. Je rappelle qu'à nos côtés, on a quand même aussi David Kalfa. Hein. Il est là, il a les stats.
Bonjour David Kalfa.
Ah, David Kalfa, alors il n'a pas mis son casque encore, mais on va lui demander de le mettre.
Vous lui transmettrez.
Bonjour. Non, il travaille. Alors on vous disait bonjour David.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Bonjour
salut David.
Bonjour David. Avant qu'on entende Kalidou Koulibaly de l'équipe des Lions de la Teranga, Olivier, vous avez déjà eu les compos, comme on dit, les compositions d'équipe. Est-ce que vous voulez déjà donner priorité à ces deux listes ô combien importantes?
Il y a une grosse surprise quand même dans la composition sénégalaise et on ne vous dévoilera que celle-là pour le moment. Mais enfin, il n'y en a pas spécialement. La Pologne, il s'est conforme. Mais chez les Sénégalais, il n'y a pas de Cheikou Kouyaté. Il était en conférence de presse hier. Comme il se doit en général, le sélectionneur vient avec son capitaine. Et bien, Cheikou Kouyaté est venu hier avec Aliou Cissé. Et pourtant, il n'est pas aligné d'entrée. Ce sera Sadio Mané, le capitaine. On s'oriente vers un 4-2-3-1, même si la FIFA a choisi, elle, de nous proposer un 4-4-2. J'ai rencontré juste avant la rencontre quelqu'un qu'on connaît, je crois, qui vient de temps en temps chez vous, Habib Bey. C'est ça? C'est comme ça qu'on dit, Habib
Bey.
Et on a eu l'occasion de manger des pâtes froides et quelques boulettes pas bonnes ensemble. Ça nous a rappelé la cantine des RFI et du coup on en a profité pour parler tactique. Et voilà ce qu'on avait convenu, c'est que ce serait un 4-2-3-1.
Alors Olivier, ces Lions de la Teranga, vous les avez suivis à Vittel, puis évidemment vous les avez vus du côté de Moscou. Dans quel état d'esprit sont-ils? Eh bien on va entendre donc Kalidou Koulibaly, le défenseur de Naples, évoquer l'état d'esprit de ce groupe des 23.
On est 23 joueurs qui n'ont jamais goûté à la Coupe du Monde, c'est normal qu'il y ait un peu d'appréhension. Mais voilà, ça reste du football, on sait que tout joueur veut jouer une Coupe du Monde. On a conscience qu'une Coupe du Monde, c'est pas n'importe quoi. On sait qu'il va falloir de la communication, beaucoup d'humilité, beaucoup de cohésion dans le groupe. Et ça, déjà, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que c'est déjà installé dans le groupe. Maintenant, il va falloir le renforcer. Ça peut être un outil qu'on ait 23 joueurs qui n'ont pas joué cette Coupe du Monde parce qu'on a la fougue, on a l'envie de bien faire. Donc ça va être positif pour l'équipe. Et je pense qu'on ne manque pas d'expérience. On a les joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs d'Europe. Ça a dû encore, l'a encore montré en jouant la finale de la Ligue des Champions. Donc je pense qu'on a le groupe pour faire une bonne Coupe du Monde et on la fera.
Olivier, un état d'esprit de cette équipe ambitieux, nous dit Kalidou Koulibaly et disait aussi Aliou Cissé.
Allô, excusez-moi parce que j'ai pas entendu votre question, Annie. On me parlait en même temps à Paris dans le casque. Alors,
Olivier, oui.
J'ai saisi le début de votre question, pardon.
Kalidou Koulibaly dit beaucoup d'humilité. Aliou Cissé disait beaucoup d'ambition. Comment sentez-vous l'état d'esprit de ce groupe?
Je les sens affamés, c'est normal, ça fait 16 ans qu'ils ne sont pas venus. Ça fait 16 ans qu'on leur parle de la génération 2002. Ils n'en peuvent plus et ils veulent écrire leur propre histoire dans ce groupe H. très ouvert. On l'a vu avec le résultat du Japon contre la Colombie. Donc voilà, ils veulent bien faire. Ils veulent être le Sénégal. Vous avez entendu sans doute sur notre antenne ce matin Aliou Cissé dire le pire ennemi du Sénégal, c'est le Sénégal. Donc voilà, pas trop de pression si possible. Et pourtant, on ne cesse de le remettre puisque c'est la dernière équipe africaine à rentrer en lice. Et comme toutes les autres ont perdu, on attend tout d'eux.
Eh oui, effectivement, et ça tombe bien qu'ils aient envie de faire oublier un peu la génération 2002, parce que El Hadji Diouf, notamment dans les colonnes du Parisien aujourd'hui ici en France, a demandé à ses jeunes frères, explique-t-il, de faire mieux que nous, c'est-à-dire mieux qu'un quart de finale, comme il l'avait fait en 2002. D'abord, moi j'aimerais vous demander, Philippe Doucet, est-ce que cette affiche entre Pologne et Sénégal est finalement une affiche équilibrée pour les Sénégalais, contrairement peut-être à d'autres matchs qu'ont dû disputer des équipes africaines?
Dans notre esprit, oui. Dans notre esprit, c'est équilibré. On le voit comme tel, en tout cas, avant d'aborder ce groupe, même si on n'a pas de référence aisée, parce que cette équipe du Sénégal, ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas joué de compétition internationale au-delà de l'Afrique. Donc, évidemment, on a besoin de repères, et ces repères, on ne va les trouver qu'à travers la compétition. On les a vus faire un bon match de préparation en Croatie, qui était un repère intéressant, mais ça ne suffit pas. C'est évidemment ce premier match qui va révéler les choses. En tout cas, oui, ça nous paraît plus facile, peut-être, que de se qualifier comme le Nigeria, par exemple, dans un groupe où il y a à la fois la Croatie et l'Argentine. Ça nous paraît un peu plus abordable, mais encore une fois, tout ce qu'on dit là, c'est avant le premier match.
Freddy ?
C'est un match avec énormément de pression, parce que je ne sais pas si vous avez parlé du poids des anciens. Là, désormais, je pense que les Sénégalais ont non seulement ils ont le poids de leur pays, mais ils ont le poids désormais de tout un continent. Je pense ce sont des aspects, je pense, dont ils tiennent en compte. Ce sont des aspects qui sont intégrés dans les esprits de ces gamins-là.
Et qui peuvent les porter.
Et qui peuvent les porter, qui peuvent les galvaniser, qui peuvent aussi les plomber littéralement. Mais
enfin, voilà, l'histoire bégaye. Hein. En 2002, ils avaient le poids de tout le continent. Exactement. Ils jouaient les champions du monde en match d'ouverture. Et ça a marché. Ça a été un match exceptionnel.
Sauf que ils étaient surmotivés, ils étaient surchauffés par le fait de jouer la France, ennemi historique, ennemi colonial, etc. En game. Mais là, ils jouent contre une équipe qui a à peu près les mêmes caractéristiques. Je sais pas, peut-être Philippe va me contredire. Ils ont à peu près les mêmes caractéristiques. Il y a une équipe de la Pologne qui, physiquement, est aussi bonne. Parce que moi, j'ai vu des gens dire, non, on va les bouffer physiquement. C'est pas possible. Physiquement, ils sont hyper bons. Au milieu de terrain, assez compact, avec l'agressivité dans les duels. Je pense que ça va être un match qui va jouer sur quelques détails différents. On a la chance, nous, les Sénégalais, il y a l'absence de Glick en défense, notamment. Mamiram Diouf, qui a joué toute la saison latéral droit, va peut-être aujourd'hui sortir le grand jeu. Il y a quelque chose à faire pour le Sénégal, c'est vrai.
Franck,
moi je pense que de toute façon ils savent très bien qu'ils l'ont, la pression ils l'ont depuis le début. Mais ce que j'ai aimé dans leur façon de préparer ce rendez-vous, c'est qu'il y a une progression. Quand vous prenez leur match de préparation, ça commence par un nul contre le Luxembourg, ils démarrent tout doucement, il faut faire la tournée des popotes, et puis voilà, graduellement il y a ce match contre la Croatie qui leur a donné un petit peu de confiance. Il y a le match à Grudy contre la Corée du Sud qui s'est joué en fait à huis clos et qui a permis, je pense, aussi de faire les derniers réglages. Et ils savent exactement là où ils en sont. Aliou Cissé, il a bien programmé cette équipe. Il a effectivement beaucoup de critiques tout autour de lui, mais c'est pas très grave. Pour revenir sur l'histoire de la pression, la pseudo-pression des anciens, mais tous les jours, ils font face à ces anciens. Les anciens de 2002, ils sont dans l'encadrement technique, il y a qu'eux quasiment. Plus Régis Bogart, plus d'autres.
Oui, Aliou Cissé notamment.
Aliou Cissé, Lamine Diatta, Omar Daf, etc., etc. Et Tony Silva, c'était les gars de 2002. Mais vous croyez franchement qu'ils sont là pour les contraindre? Au contraire, ils sont là pour les
porter.
Pour les porter.
Mais il y a une autre critique, pardon Annie, qui est importante, c'est que cette équipe du Sénégal, depuis un bon moment, n'a pas montré un visage meilleur, notamment dans le jeu. Il y a un problème de liaison, il y a un problème de fluidité dans le jeu. Est-ce que ça va se retrouver dans cette Coupe du Monde? C'est aussi la grande question.
Olivier, Christophe Jousset, une chose, on va se retrouver aussi avec un face-à-face de buteurs. On a d'un côté Sadio Mané, qu'on a vu marquer en finale de Ligue des Champions et qui est le buteur de Première Ligue avec Liverpool aux côtés de Mohamed Salah. Et puis en face, on a Robert Lewandowski, le Polonais meilleur buteur de Bundesliga.
Oui, c'est vrai que, alors, surtout Lewandowski, en matière de buteur, on tient là quand même l'un des meilleurs attaquants du monde, qui effectivement a encore beaucoup marqué cette saison, mais qui marque beaucoup en Bundesliga depuis 5 saisons. Si vous regardez les classements des buteurs des 5 dernières saisons dans le championnat d'Allemagne, vous le trouvez systématiquement soit à la première, soit à la deuxième place. Et en plus de ça, il y a un contexte un peu particulier pour lui parce que bah, le Bayern, il en a un peu fait le tour, il a envie de passer à autre chose. Donc, il est dans un moment important de sa carrière où, eh bien, il a envie manifestement d'aller chercher d'autres défis sous les couleurs d'un autre grand club. Donc, il est extrêmement motivé à l'occasion d'ailleurs de sa première Coupe du Monde, parce que c'est bien le cas. Robert Lewandowski va jouer sa première Coupe du Monde, lui qui, au cours de la campagne de qualification avec la Pologne, a marqué la bacchanale de 16 buts. Autant dire que c'est un record pour la zone Europe, en tout cas dans l'histoire des éliminatoires d'une Coupe du Monde.
C'est un record, mais si je me trompe pas, pendant l'Euro, il avait très peu marqué ou pas marqué.
Je me demande si c'est pas
Philippe,
zéro.
Oui, il semble.
Entre zéro et zéro but.
Zéro but.
Non, la Pologne n'est pas. D'abord, c'est pas une force de frappe extraordinaire. Ils étaient dans un groupe assez à la portée d'un buteur comme Lewandowski, un groupe relativement abordable. C'est pas une force de frappe extraordinaire, la Pologne, mais c'est vrai que si vous laissez des occasions à Lewandowski, il va pas, faut pas lui laisser trois ou quatre occasions, ça c'est sûr.
On va écouter justement leur sélectionneur Adam Navalka évoquer, eh bien, la force de cette équipe, mais aussi ses faiblesses et notamment les joueurs qui ne sont pas titulaires en club.
Nous avons eu une préparation optimale. Mis à part ce qui est arrivé à Kamil Glik, rien n'est venu troubler l'harmonie de ces dernières semaines. C'est vrai que certains joueurs n'avaient pas joué suffisamment de matchs cette saison dans leur club, mais dès le début, on a adapté leur programme. Grégor Krikoviak, par exemple, est en grande forme. Les autres aussi ont montré de belles choses à l'entraînement et pendant les matchs amicaux. Contre la Lituanie notamment, on a vu leur progrès. Je suis sûr et certain que nous sommes bien préparés. Après, on verra si le résultat suivant.
Voilà, c'était les limites de cette équipe évoquée par Adam Navalka. Olivier Pron, vous vouliez intervenir ?
Oui, je voulais juste dire, c'est vrai que c'est le paradoxe de cette équipe de Pologne. En qualification, ils écrasent leur groupe hein, avec 8 victoires, 1 nul, 1 défaite. Ils marquent 28 buts, Christophe l'a dit, 16 de Lewandowski, mais ils en prennent 14. Et c'est bien plus que toute autre équipe dans la phase de qualification dans la zone Europe. Donc voilà, ça marque des buts. Alors certes, contre des équipes, Philippe Boussel disait, assez faibles, mais ça en encaisse quand même pas mal aussi.
Oui, on rappelle qu'ils ont terminé premier de leur groupe. Les Polonais dans un groupe où il y avait notamment le Danemark, le Monténégro a terminé à la troisième place, il y avait encore la Roumanie et quelques autres pays. Mais voilà un peu le parcours de cette équipe pour revenir en Coupe du Monde, parce que les Polonais sont à la relance. Hein. Ils ont réussi leur Euro 2016 en atteignant les quarts de finale, mais ils ont raté les deux dernières éditions de Coupe du Monde. Le passé, le glorieux passé est assez loin finalement, hein, puisque la Pologne a terminé à deux reprises à la troisième place mais de la Coupe du Monde. Mais ça, c'était dans les années 70, dans les années 80. Et finalement, quand on regarde leur parcours dans les Coupes du Monde récente, il n'y a pas grand chose à signaler. La dernière fois qu'ils ont passé le premier tour d'une Coupe du Monde, c'était en 1986, donc ça commence à dater.
Oui, effectivement, comme la Pologne, pour la Pologne ou pour la Russie, c'était un autre monde que les années 80. Quand le sélectionneur polonais dit que certains de ses joueurs ne sont pas titulaires, c'est le cas notamment du gardien de Chesney, c'est aussi le cas de Krikoviak, Franck.
Ouais, lui pour le coup, oui, ça a été un des soucis. Mais après, bon, ils ont quand même, comme toutes les équipes, ont eu le temps de se préparer. Il y a une remise à niveau, vous le savez bien, en fait, hein, entre la fin des championnats et puis le début d'une compétition telle que celle-ci. Donc, ils sont tous au point. Il a justement peut-être plus de fraîcheur que certains. Et puis, il a le vécu. Il faisait partie de cette équipe. C'était un des éléments moteurs de la Pologne à l'Euro 2016 en France. Donc, on pourra compter sur Krikoviak comme tous les autres.
Hein. Oui. Philippe Doucet, une autre chose aussi. On parlait de Sadio Mané et de Robert Lewandowski. On a déjà vu que Romelu Lukaku et Harry Kane ont marqué des buts et ont déjà marqué deux buts.
Ronaldo aussi.
Pardon.
Ouais. Ronaldo, on doit l'oublier.
Évidemment, premier. Excusez-moi, parmi les buteurs. Oh là là, je vais faire mal voir.
Il est hors catégorie, Ronaldo.
On considère qu'il est hors catégorie.
Il est hors catégorie.
C'est à ce point-là.
Il ne compte pas. C'est un autre championnat. Lui. C'est un truc à part.
Un championnat à lui tout seul. Est-ce qu'on est parti pour voir les buteurs se mettre en valeur dans cette compétition?
Faudrait savoir ce qu'on veut et ce qu'on dit, parce qu'on a tendance à penser que les grands pays sont très freinés et n'arrivent pas à marquer beaucoup de buts et sont très freinés par les petits. Et puis parallèlement, quand on regarde le classement des buteurs, on s'aperçoit que c'est pas si vrai que ça. Alors Ronaldo, c'est un cas à part, on l'a souligné, parce oui. que lui, il met 3 buts, mais il met 3 buts contre l'Espagne. Là, c'est hors catégorie, ça, on verra s'il continue sur cette lancée dans son groupe, ou contre le Maroc et l'Iran, il aura des occasions, évidemment, de marquer plus.
Je rajoute Diego Costa, auteur de doublé.
Et Diego Costa, oui, effectivement, on l'a oublié également. Mais effectivement, je pense qu'il y a toutes les raisons qu'il y ait beaucoup de buts. Il y a d'abord des kyrielles de pénalty, et il y en aura plus que jamais avec le VAR. On battra tous les records.
Avec
ça, c'est
l'assistance
assuré.
Vidéo,
c'est assuré. Ça, on verra beaucoup
de pénalty. On en a combien à 10 pénalty déjà, je crois.
Ouais.
Et il y a beaucoup de buts sur coup de pied arrêté.
Il y a un arbitrage, ça c'est au positif, qui est quand même favorable globalement aux attaques. Et donc je pense qu'on a toutes les raisons de voir des buteurs. Je sais que Just Fontaine a reçu la médaille d'or aujourd'hui à Toulouse. C'est amusant, c'est un clin d'œil. C'était aujourd'hui la date anniversaire des 4 buts qu'il a mis contre l'Allemagne au match pour 3e place en 58.
Ce qui avait fait 13 buts dans une même compétition.
13 buts. Je pense que c'est un record qui, contrairement à ce que tout le monde dit, c'est un record qui sera battu un jour. Parce que on voit de plus en plus de buts, en fait. On favorise de plus en plus les buts. Pour peu que les formats de compétition augmentent et explosent encore en plus, je pense que c'est un record qui tombera, peut-être pas cette année, mais qui tombera.
Dans 8 ans, alors peut-être. Olivier Pron, vous vouliez intervenir, vous disiez il y a eu 10 pénaltys, hein, c'est ça, depuis le début.
8 pénaltys en 14 matchs. Mm-hmm. 8, 7 réussis, puisque Lionel Messi a vu le sien arrêter.
Deux ratés, il y a Cueva aussi, hein.
Cueva qui a raté
Pérou,
alors ça veut dire, alors oui, 9 pénaltys. Alors donc on est à 9 pénaltys en 14 matchs, ce qui est quand même énorme en ce début de compétition.
Ouais, merci le vidéo arbitrage.
C'est surtout,
Freddy.
Comme je dis, je rebondis sur le fait qu'il y avait beaucoup de buts sur coup franc aussi. Il y en a eu 4 inscrits directement. Il y a eu aussi beaucoup de buts sur coup de pied arrêté, c'est-à-dire les coups francs directs ou les corners. Mm-hmm. Ça prouve qu'il
y aura moins quand les équipes africaines seront éliminées. Il y aura beaucoup moins de buts sur coup de pied arrêté.
Attends,
c'est une mauvaise.
Olivier, vous avez la parole.
Je voudrais juste que Philippe Doucet se teste 2 minutes pour nous permettre d'écouter les Polonais chanter leur hymne. Je ne sais pas si vous entendez bien, mais je peux vous dire que ça chante et c'est quelque chose.
Très bien.
C'est vrai que là, clairement, je vous l'annonce, je ne sais pas où sont les supporters sénégalais. Mais on a beau chercher, on ne les voit pas. C'est rouge et blanc ce stade. Rien d'autre.
Sénégal, rec.
Il y a le 12e Gaïmbé qui est parti aussi. Un autre groupe de Sénégalais.
Ah, allez, le Sénégal.
Ils ont fait le déplacement.
Il suffit pas de bien chanter l'hymne, il faut bien jouer. Allez, le Sénégal.
On espère que.
Oui, et le Sénégal est soutenu par l'Afrique. On le sait, toute l'Afrique.
Et par vous peut-être, Olivier.
Par l'Europe aussi.
Ah non, je suis journaliste, mais
je sais bien. C'est ça.
Bah, nous, on est pour le Sénégal.
On est pour le Sénégal, nous, Olivier. Hein. Voilà, les amis sénégalais nous ont entendus.
Que Philippe Zegraf ne nous entende pas. Que Philippe Zegraf ne nous entende pas. Olivier Pron, Christophe Jousset, les auditeurs ont rendez-vous dans 1 minute avec vous. On vous retrouvera dans ce très beau stade donc du Spartak Moscou. Pour l'instant, nous ici, on va conclure Radio Foot International, messieurs, avec notre petit jeu.
Votre pronostic
et le vôtre.
Mais je ne suis pas un devin, je suis un malin. C'est tout.
Nous sommes d'accord.
Alors messieurs, dernier petit exercice de cette émission. Allez, le moitié sénégalais, que dit-il ?
2-1 pour le Sénégal.
Ah ben il est abonné au 2-1.
Non, l'autre c'était 3-1.
Ah pardon, 3, hein, c'est vrai, j'ai noté.
Moi je reste fidèle hein, partout.
Chose que dans l'autre match. Vous prenez pas beaucoup de risques, Philippe Doucet.
C'est aussi risqué que de se tromper en donnant un vainqueur. C'est pareil.
Franck.
La cote ? Oui. Allez. Une victoire du Sénégal, 3-2.
3-2, oui.
Allez, des buts, beaucoup de buts.
Hein, on parlait du spectacle. C'est la fin de ce Radio Foot International. Je vais laisser nos auditeurs africains qui écoutent donc RFI en FM ou via l'appli Pure Radio, le match donc en direct de Moscou. Et vous serez avec Martin Guez qui va prendre le relais. Sinon, rendez-vous ce soir à 23h10, heure de Paris.
Allez les Lions.